débat excentrique. Quatre intervenants avec moi, avec des regards différents, des expériences différentes. Donc, Solange Martin pour l'ADEME, Nicolas Fiolaine, Université de Lyon, Frédéric Fréchrigon, Frappe-Narrône, et Alex Collin, Graines Bourgogne-Franche-Comté. Pour les premières 30 minutes, la parole, l'échange, les discussions vont se dérouler au centre. La demi-heure suivante, vous allez être amené à vous exprimer. Et pour cela, vous devrez vous déplacer et venir occuper l'une des quatre chaises vides. Une fois que les quatre chaises vides sont occupées, il est toujours possible de venir discuter. Il suffit de se placer derrière une des personnes qui a terminé son tour de parole, de lui taper sur l'épaule. Il se lève, retourne à sa place et vous lui succédez. Ça va ? Je reviendrai sur cette méthode. Ok ? Alors, pour commencer, et pour connaître un petit peu mieux nos intervenants, je vais leur poser une question en 2 minutes. Vous allez devoir me dire depuis quand et pourquoi vous travaillez sur l'accompagnement du changement. Qui souhaite démarrer ? Nicolas.
Alors, depuis quand ? Je ne saurais pas dire. Il y a deux choses. Je travaille sur le changement d'abord. J'ai travaillé d'abord sur le changement et après, j'ai travaillé sur l'accompagnement. L'accompagnement au changement, donc moi je suis chercheur en psychologie sociale, donc j'ai fait une thèse, où j'ai développé toutes sortes de travaux, etc., qui portaient sur la question de la précarité sociale et en fait une certaine approche du changement, puisque la précarité se définit parfois comme le changement en permanence, l'instabilité en permanence, le temporaire en permanence, et donc assez tôt je me suis intéressé à cette question du changement, de ce que ça produit et surtout ce que ça produit sur ce qui m'intéresse le plus, le rapport au temps, la capacité à se projeter dans le futur et à se construire une mémoire de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de ce vers quoi on va plus tard. Donc voilà, j'ai développé plein de travaux là-dessus fondamentaux qui sont publiés dans des revues que 3 personnes lisent, 2 personnes comprennent et qu'une personne trouve intéressante. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Donc d'abord, en prenant le prétexte de la pédagogie, j'ai essayé de monter des modules pédagogiques qui visaient à appliquer ces connaissances-là, parce qu'on nous mettait la pression sur la professionnalisation des étudiants et qu'on se demande toujours comment professionnaliser des psychologues. Ça paraît très difficile. Donc, chemin faisant, ça m'a amené à rencontrer pas mal d'acteurs quand même qui disaient « Mais finalement, ce que vous étudiez nous intéresse pas mal ». Donc, ça a commencé par des conférences ou juste des rencontres et puis des conférences dont tout le monde ressortait en disant que tout ça, c'était extrêmement intéressant, mais qu'ils ne voyaient pas du tout ce qu'ils pouvaient en faire.
Je vais te frustrer, il va falloir que tu passes bientôt la parole.
Oui, bien sûr. Et du coup, c'est là où c'est devenu un accompagnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où transmettre ou dire ce qu'on fait ne suffit pas, il a fallu être aux côtés des acteurs pour dire, ce changement-là, on va l'analyser ensemble et on va regarder et sur des années, sur des mois, etc., travailler ensemble à comprendre ce qui est frein, ce qui est levier au changement, avec ou sans étudiants, avec des partenariats différents, mais la plupart du temps via des recherches-actions.
Ça fait le lien sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a un acteur justement du territoire, Auvergne-Bourgogne-Franche-Comté, qui veut davantage dire depuis quand il travaille sur cette thématique de l'accompagnement au changement ?
Comme tu nous laisses le choix.
Allez.
Alors c'est un peu compliqué comme question, je vais plutôt vous dire, un peu comme Monsieur Jourdain, je crois que j'ai commencé à travailler sur ce qu'on appelait plutôt l'éducation à l'environnement, qui était déjà de fait dans les tiroirs de la volonté de changer le monde ou de changer avec et pour et nos concitoyens depuis 35 ans, on va dire. Dans cette idée plutôt à l'époque de découverte, de connaissance, de liens affectifs avec la nature. Donc je ne sais pas, j'aurais tendance à dire comme ce qui s'est dit ce matin, en termes de changement, on est plutôt dans les 10 dernières années, formulées comme telles, en tous les cas en ce qui me concerne. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un continuum de la logique de la découverte et de l'animation nature à l'éducation à l'environnement, à la logique d'accompagnement vers les changements. Après la journée d'aujourd'hui, où j'ai compris et appris encore plus de choses, je saurais bien faire la nuance entre animation, éducation et puis changement, mais on va dire un continuum avec une évolution de la société, et à côté de ça, au point de vue structurel, la découverte plutôt à la fois des associations de protection de la nature, où je travaille toujours, avant un centre communal d'initiation à la nature, donc le côté collectivité, et puis les réseaux, et puis des journées comme aujourd'hui, le travail ensemble, quels que soient les partenaires.
Eh bien, je vais donner la parole à un partenaire, du coup, Solange Martin.
On a répété ça tout ce matin, hein, vous ne nous avez pas vu, mais...
Eh bien, comme j'ai le choix aussi, que je vais moins vous parler de moi que de l'ADEME. En gros, je suis sociologue à l'ADEME, je travaille pour une institution qui travaille sur le changement. Donc l'ADEME travaille sur le changement depuis, ma foi... Son origine, donc 92. Néanmoins, il est vrai qu'il y a une montée en puissance de cette thématique assez marquante depuis, on va dire, une dizaine d'années, et peut-être encore plus chez nous avec la nouvelle présidence depuis, on va dire, 5 ans. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit dans d'autres institutions, c'est un mouvement général aux politiques énergie-environnement. On s'est rendu compte au bout d'un moment, et ça date d'une circulaire de la Commission européenne de 2006, que la technologie ne ferait pas tout, et que si on n'y allait pas avec des changements aussi de comportement, de pratiques sociales et de mode de vie, on va voir tout ça peut-être après, ces distinctions, ben on n'y arriverait pas. Donc le facteur 4, c'est pas juste l'efficacité énergétique, était la première réponse des pouvoirs publics face aux crises pétrolières notamment, et c'est vachement pratique l'efficacité énergétique, parce qu'on change les équipements, puis on ne change rien du reste, donc c'est vrai que c'est pas mal. Mais ça n'allait pas suffire. Donc effectivement, cette question est bien maintenant dans l'actualité de l'ADEME, sachant qu'on est un certain nombre à travailler dessus, mais qu'on reste quand même globalement sur toutes les autres missions. On est 3 sociologues à l'ADEME, un certain nombre de personnes en région qui s'occupent de ces questions-là, donc ça monte. Mais il y a encore une marge de progression, on va dire, pour qu'on prenne la pleine puissance et mesure de la question. Sachant que nous, on ne s'intéresse pas seulement à l'accompagnement au changement, on s'intéresse au changement sous toutes ses modalités, avec tous les outils de politique publique, donc qu'ils soient incités de façon volontaire ou un petit peu moins de façon volontaire, c'est-à-dire un petit peu décrétés, imposés par la réglementation. Mais ça veut dire aussi qu'il faut l'accompagner, l'expliquer, la rendre acceptable, faire en sorte aussi que les perdants ne soient pas, soient accompagnés aussi et ne s'opposent pas aux nouvelles réglementations. Voilà, avec tous les outils de politique publique, y compris l'aménagement du territoire, voilà, nous, ça intéresse au changement social dans toutes ses dimensions, avec tous les outils qui sont les nôtres et pas seulement les outils d'accompagnement.
Merci Solange.
L'accompagnement au changement, quand on rentre dans l'éducation environnement, peut-être qu'on pratique déjà sans forcément mettre ces mots-là dessus. Après, moi personnellement, je pense que j'ai acheté un bouquin un jour par hasard dans une journée de conférence, c'était le manuel de transition de Rob Hopkins, où par hasard je découvre le concept de pic pétrolier et puis en même temps le modèle transthéorique là. Et là, il y a un truc qui... Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de pic pétrolier avant, alors que ça me semble toujours, que ça me semble aussi fondamental. Et du coup, je décide de faire ça un peu de mon boulot, d'essayer de causer de transition vers la société de l'après-pétrole, avec mes compétences, ma formation, qu'on appelle le pédagogue, ce genre de choses autour de l'éducation en tout cas. Et du coup, pour moi, avec les adultes, parce que je me dis, y a plein de gens qui s'intéressent à comment on éduque et on fait découvrir plein de merveilleuses choses aux enfants, mais il me semble qu'on ne s'intéresse pas assez aux adultes, et du coup, voilà. Et je poursuis ce travail-là, notamment en rentrant dans le GREN, Bourgogne-Franche-Comté, ou en commençant plutôt à être sur l'accompagnement de changement des perceptions, en travaillant sur les représentations initiales. On a fait un petit boulot là-dessus, dans le cadre d'une commission, on l'a cité ce matin, commission d'expérimentation et de recherche pédagogique en éducation et environnement, où on essaye d'explorer des nouveaux thèmes, des nouvelles techniques, voilà, essayer des choses et un peu ouvrir l'horizon. Et puis je vais terminer là-dessus. Voilà.
C'est très bien. Alors, pour enclencher la discussion et amener du coup les autres participants à nous rejoindre, une petite question. Est-ce que vous avez entendu quelque chose au cours de la matinée ou au début d'après-midi qui vous a étonné, qui vous a fait réagir, qui vous a choqué, qui vous interpelle sur vos pratiques, qui vous amène peut-être à changer votre vision de votre pratique de l'accompagnement, qui veut commencer à s'exprimer, à donner son avis, et les trois autres sont invités à réagir sur ce que le premier partagera. Alex.
Merci. Je l'ai dit autour d'une table ce matin. L'éducation environnement, je crois qu'on essaye de faire plein de trucs, on a toujours essayé d'aller à droite à gauche, causer plein de sujets différents. Mais on a, enfin, je crois qu'il y a une grande partie des éducateurs environnement, et les gens qui sont réunis aujourd'hui ici en sont la preuve, qui s'intéressent à l'éthique, et on a toujours ce truc, on veut pas tout faire à n'importe quel prix. On se pose toujours la question de la fin justifie les moyens ou pas. A priori, on répond plutôt non à ça, en général. Et puis, au fur et à mesure que je me suis promené et tout ça, j'ai entendu des choses. Finalement, peut-être que la dictature, est-ce que c'est forcément toujours négatif en fonction de comment c'est fait ou pas? Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Des trucs un peu à droite, à gauche, comme ça. Et je me suis demandé est-ce qu'il fallait créer un label ou un tampon approuvé. Cet accompagnement au changement est approuvé par l'éducation environnement. Donc c'est exprès un peu provoque dans la continuité de ce matin, mais en tout cas par rapport aux valeurs et aux méthodes que peut être faites à droite à gauche, est-ce qu'à un moment donné il faut se dire ce truc-là c'est validé par l'éducation environnement?
Même si ça a un côté dictature?
Justement je fais exprès de lancer ça.
Le débat.
Voilà.
Est-ce que ça vous amène à réagir sur cet aspect-là? Est-ce que vous avez envie de répondre à Alex?
Moi, j'aime bien. Sans répondre, c'est vrai que c'est cette question de l'éthique. Moi, ça m'a fait penser à un moment où je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il fallait une sorte de... Parce que nous, chez les psychologues, on a un code de déontologie. On est très particulier dans les sciences humaines et sociales, c'est qu'on est tenu par un code de déontologie duquel on doit répondre, et nos actes doivent préserver le bien-être psychique, doivent, etc. Et ce qui fait que normalement, en tout cas en France, les psychologues ne peuvent pas tout à fait faire n'importe quoi, à différence d'autres professions dans le marketing ou autres qui peuvent absolument faire tout et n'importe quoi. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que pour certains sujets, est-ce qu'il faut collectivement construire une éthique, alors comment ça s'appelle, peu importe, mais quelque chose qui pose les limites, les frontières de ce qui est acceptable ou pas dans le cadre d'une profession ou d'un ensemble de professions. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée, puisque la fin justifie les moyens ou pas. Il y a eu tout un tas de questions pendant toute la journée, effectivement, sur le rapport à la démocratie. Le rapport à la démocratie et puis le rapport à l'expertise, on y reviendra peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait de l'expertise, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie, qu'est-ce qui reste de la démocratie représentative dans certains contextes, et comment s'invente par ailleurs une démocratie directe. La démocratie peut faire le meilleur comme elle peut construire le pire, ou fabriquer de la passivité, de l'inertie face à une urgence qui transcende quand même un petit peu les intérêts individuels. Donc on dit, cette démocratie, on va l'animer. On va être des facilitateurs de démocratie, alors qu'on sait bien que, enfin en tout cas, dans le domaine de la psychologie sociale, on a l'impression d'avoir constaté depuis longtemps que la manière dont on facilite détermine en grande partie ce qui va sortir du contexte qu'on vient de faciliter. Donc c'est pas parce qu'on facilite les échanges qu'on n'a pas une influence très forte sur la nature de ces échanges-là et de ce qui s'y autorise ou de ce qui s'y interdit comme parole. Donc je rejoins pas mal la question sur les limites, mais est-ce qu'elles doivent être fixées ou est-ce qu'elles renvoient, et c'est la troisième chose qui m'a marqué, ou est-ce qu'elles renvoient à l'individualité? Et j'ai beaucoup entendu aujourd'hui des renvois à la personne, et au final, mais si je pousse jusqu'à l'extrême, puisqu'il s'agit de pousser des choses pour faire ce... Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un de bien, quoi? J'ai eu l'impression que ça renvoyait à ça, et j'avoue que j'ai un peu de réticence par rapport à des environnements professionnels qui viennent questionner la valeur des personnes, c'est-à-dire où on se met en jeu. Il y a tous des travaux de sociologues et de psychologues sociaux aussi sur ces nouvelles professionnalités qui engagent plus simplement des compétences, mais qui engagent la personne dans son ensemble, où on devrait mettre en jeu toute son éthique, toute sa personne, et soit on est quelqu'un de bien, soit on n'est pas quelqu'un de bien. Et je trouve qu'il y a un vrai danger parce que personne n'a les épaules assez larges, et puis les barques sont déjà bien chargées pour tous dans le travail à faire au quotidien, pour pas en plus avoir l'impression de jouer dans sa pratique professionnelle toutes ses valeurs, etc. Je pense que ça fait beaucoup Il y a d'autres professions où ça a fait un peu des ravages, par exemple dans le travail social, hein, parce qu'on est pris par des institutions, on est pris par des financements, on est pris par des contextes, donc il faut pouvoir un tout petit peu relativiser. Voilà, c'est trois sujets sur lesquels qui m'ont aussi, moi, un peu surpris, mais agréablement, de manière intéressante, je veux dire.
Bon, alors, déjà, je signale que c'est quand même extrêmement compliqué, vu le niveau des interventions de toute la journée et maintenant, d'essayer de prendre la parole. Heureusement, en termes de technique d'animation, faire le clown, ça marche toujours. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé et que je crois qu'il y a une direction qu'il faut qu'on investisse, c'est l'art de la négociation. Comme on a parlé tout à l'heure, Alex a parlé d'un bouquin qui l'a marqué. Moi, je suis à la 25e page d'un bouquin dont je sens qu'il va beaucoup me marquer. Et ça s'appelle « Les diplomates ». Et c'est un philosophe naturaliste et c'est appliqué au rapport entre l'homme et le loup. Donc on sait bien que l'homme n'est pas un loup pour l'homme, loin s'en faut. Par contre, tout ce qui est développé dans ce bouquin est absolument remarquable sur, à mon avis, les rapports humains. Et revisiter le mot diplomatie et la médiation et la négociation, il me semble que on a dit facilitateur, on a dit accompagnant, il me semble aussi qu'on a dans nos métiers cette dimension de pouvoir, de chercher à faire se parler des gens en désaccord entre eux. Donc c'est l'exemple très très net de l'éleveur et du naturaliste. Comment on va faire parler de populations avec des intérêts absolument divergents? C'est pareil dans nos sociétés en matière de transition. Comment on va faire parler un citoyen avec un industriel? Comment on va avancer ensemble? Et il me semble que le mot diplomatie, dont j'ai appris qu'il voulait dire plier en deux, c'est-à-dire au service de deux intérêts a priori divergents, était quelque chose d'intéressant dans notre travail. L'autre chose qui me paraît aussi important à revisiter, après, c'est le doute. Je pense vraiment qu'il faut être absolument certain qu'il ne faut être certain de rien. C'est vraiment quelque chose que La logique du respect des points de vue, pas la bienveillance qui est trop galvaudée maintenant, mais le respect des points de vue est quelque chose qui sous-entend quand même absolument de devoir écouter en se posant la question de est-ce que je vais pas changer d'avis là dans cette discussion. Le pendant de ce, il y a quelque chose qui a été dit dans notre groupe ce matin qui est très très intéressant. Je dois arriver en pensant que je peux changer d'avis. Ça veut dire que j'arrive en n'espérant pas gagner. J'arrive pas pour dominer quelqu'un ou lui dire à la fin, nananère, t'as perdu, t'as vu, mon argument est meilleur que ton argument. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va avec la précédente chose, hein, le doute, la diplomatie, et je vais passer la parole.
Alors, sur la question de l'éthique, à la dame, on se l'est posé en tout cas très concrètement concernant les nudges, notamment, c'est-à-dire quelle position on prenait, nous, institutions, sur les nudges. Donc voilà, les lignes rouges à ne pas dépasser, nous semble-t-il, en tant qu'institution publique, c'est d'une part de ne pas utiliser le mensonge. Vous avez une des expériences canoniques qui est 70% des gens vont utiliser la serviette et ça marche, oui, certes, dans les hôtels. Mais le chiffre de 70% des gens était en fait totalement issu de rien du tout, enfin voilà, même si ça fonctionne. Donc nous, ça interdit le mensonge. Et par ailleurs, d'autres discussions également sur la transparence, c'est-à-dire on a quand même une obligation de faire en sorte que les gens nous savent quand ils sont dans une expérience ou quand ils ont une incitation. Voilà, pour nous, c'était les deux lignes rouges, donc on se pose ces questions-là, évidemment, concrètement. Après, par rapport tout le balancement démocratie, valeur, dictature, tout ça. Alors juste en tant que sociologue, j'ai une formation de sociologue, les registres de justification en sociologie, en sociopolitique, il n'y en a pas qu'un. Au bas mot, il y en a six. Hein, en Occident, moi, je ne vais pas vous les faire parce que c'est un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de métasystème pour organiser tout ça. Ce qui veut dire que vous n'allez jamais pouvoir résoudre un conflit de valeurs avec une autre valeur. Vous n'allez jamais pouvoir résoudre un conflit de valeurs avec de la science. Vous résolvez un conflit de valeurs avec des arguments de la politique. Voilà, ça s'appelle faire de la politique. Donc ça, il faut éviter le rêve de se dire qu'on va pouvoir, à un moment... parce que la valeur de l'environnement, ce n'est pas la seule. Est-ce qu'on a tous envie de mettre la démocratie à la poubelle par rapport à l'environnement ? On voit bien que non. Est-ce qu'on a envie de mettre la vérité scientifique aussi dans la poubelle par rapport à l'environnement et l'efficacité ? Non plus. Enfin oui, il y a plein de choses comme ça, et ça, c'est l'appel faire de la politique. Donc voilà, juste petit aparté. Mais c'est bien de faire de la politique, c'est ça qui nous fait humains aussi. Et puis, sinon, ce que je voulais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, sur la question de ce qu'on fait peser sur les individus. Alors moi, il y a une petite phrase qui m'a interpellée ce matin dans les groupes, alors qui part d'une extrêmement bonne intention qui était, alors je ne sais plus qui c'est, donc surtout pas qu'elle se sente visée, mais elle va se reconnaître. Oui, mais si on fait de la technologie et qu'on change les gens par une technologie, ça me choque parce que du coup, on ne les éduque pas. En gros, c'était ça le fond du problème. Alors oui, c'est bien d'éduquer les gens. Oui, c'est bien de faire en sorte qu'ils soient conscients de ce qu'ils font, qu'ils soient volontaires. Dans ce... Mais en même temps, si on vous simplifie la vie, c'est quand même très, très agréable. Il y a un moment où voilà, l'éducation, c'est bien. On sait aussi, il y a quantité de travaux qui montrent que de bien savoir, de bien vouloir faire, des fois, ça ne suffit pas. Et il ne faut pas s'interdire sous prétexte que ça n'est pas aussi noble, d'une certaine manière, ça n'est pas aussi humaniste que l'éducation, d'avoir des petits coups de pouce, pour le coup. La techno, si ça vous aide, voilà les multiprises où il y a juste à appuyer sur un bouton, il n'y a pas d'où tout débrancher pour éteindre les veilleuses, c'est quand même vachement bien. Voilà. Donc pensez aussi que si les gens, on veut les amener dans la transition, il ne faut pas faire peser sur eux toute cette charge cognitive et morale d'être à chaque fois dans le choix aussi de bien faire. Alors oui, de temps en temps, il faut avoir le choix, mais tout ce qui peut faire en sorte qu'on leur simplifie la vie d'une part, et d'autre part qu'on ne leur demande pas de se sacrifier pour un collectif qui, lui, ne bouge pas ou bouge moins vite, ça peut être pas mal non plus. Voilà, donc c'est un petit plaidoyer parfois sur la réglementation qui fait que tout le monde, quand elle est expliquée, légitime, justifiée, ça permet au moins de ne plus se poser la question, et c'est quand même vachement pratique, et les gens vous en seront reconnaissants. Et par ailleurs, je suis d'accord avec Nicolas aussi, je voudrais qu'on revienne un moment dans la discussion sur l'expertise.
Je commence, je te passerai le micro après, mais simplement sur l'expertise, effectivement, j'ai senti des moments compliqués sur qui est à même de porter quelle parole sur quoi. Avec des moments d'effacement complet de toute expertise, c'est-à-dire que chacun parle d'où il est, avec son vécu personnel, etc., et que... tout savoir, toute expérience, etc., équivaut à l'autre. Et avec d'autres moments où c'était, mais non, mais quand même, il y en a qui sont, enfin, qui savent, qui ont fait des études, ou qui ont une certaine expérience, ou qui ont réfléchi à la question, ou qui se sont posé la question de leur ressenti, là où d'autres n'ont pas forcément eu cette réflexivité, donc ils peuvent avoir une voix qui porte un peu différemment. Et puis d'autres moments où c'est oui, mais est-ce que l'expertise en disant qu'elle n'existe pas se cache pas d'elle-même et se cache pas aux autres alors qu'elle existe et qu'elle va être capable par son expertise d'opérer des effets de domination qui parce qu'ils sont invisibles seront d'autant plus ravageurs que si on lisse donc vraiment cette question de l'expertise m'a beaucoup interrogé, c'est-à-dire à quel moment on peut être dans un équilibre qui permet de reconnaître à chacun une forme d'expertise et le risque qu'il y a à n'en reconnaître aucune, mais qui fait que ben, les gens avec leur expertise d'usage, avec leur expertise, leur savoir expérientiel, sont eux pas non plus reconnus. Et c'est d'autant plus compliqué pour moi qui arrive à un moment donné dans des discussions avec un corpus scientifique dont on passe notre temps à essayer de faire en sorte qu'il ait une validité un tout petit peu plus supérieure que la discussion au bar du coin. Ce qui est compliqué, hein, je ne dis pas, il y a plein de publications qui ne valent pas plus que ce qu'on peut dire sous l'emprise de l'alcool un soir, etc. Bon, mais il y en a quand même quelques-unes qui ont réussi à, enfin voilà, par tous les critères. Et donc c'est compliqué de dire, comment amener cette contribution-là s'il n'y a pas à un moment donné la place pour une expertise sur un endroit très spécifique et arriver à construire une complémentarité des expertises et non pas la compétition des expertises, qui est certes ce vers quoi on cherche à nous emmener toujours, et par la logique de l'appel à projet, par la mise en compétition des uns face aux autres, c'est sûr qu'on cherche à faire en sorte que on ait des volontés hégémoniques, soit au contraire qu'on dise non, mais pour embêter personne, disons que personne n'y connaît rien à rien du tout. Et donc c'est vrai que ça a posé question, puisqu'à des moments, en tant que chercheur, on peut même se dire moi, j'ai rien à faire. Enfin, si ce que j'ai pu amener par les recherches que j'ai fait n'a pas plus de poids sur un aspect très particulier, qu'est-ce que j'amène? Et ça m'a rappelé à des choses assez anciennes où, quand je bossais sur la précarité, il y avait deux slogans d'agences intérim qui ont construit pour moi mon sujet de thèse. C'était le temporaire en permanence. Et le deuxième, c'était, et ce qui était une pub, avec un point d'exclamation, super sur la devanture. Et l'autre, c'était nul n'est irremplaçable. Je me suis dit, là, à un moment, en termes de sens du travail et de sens de la place que je prends dans un groupe pour travailler sur des sujets, oui, je crois que chacun est irremplaçable et que c'est important de le marquer et de l'identifier, et du coup, effectivement, peut-être de dire d'où on parle, à partir de quoi on parle, et par contre, de rendre légitime toutes sortes de d'expériences, etc.
Faire part de la manière dont vous gérez à l'ADEME cette posture de l'expert, qu'on vous renvoie. De la même manière, j'invite deux autres intervenants à partager le ressenti par rapport à l'expertise. Et il est temps aussi de vous inviter, si vous le souhaitez, à réagir sur ce qui vient d'être dit depuis tout à l'heure, sur le poids, sur l'individu, les questions de déontologie, là maintenant d'expertise, ou sur d'autres aspects qui vous ont également marqué, interrogé, sur lesquels vous souhaitez échanger, avoir les avis des autres aussi sur vos questionnements. C'est le moment de nous rejoindre dans le bocal, exactement, dans l'aquarium central. Voilà, donc libre à vous, vous venez, vous vous placez, et on vous passe la parole et vous intégrez à la discussion.
Il faudra un premier.
Voilà.
Toujours pareil. On aurait dû mettre un compère pour faire semblant.
Donc en attendant, on peut poursuivre la discussion, mais venez nous rejoindre.
Je continue sur l'expertise, du coup. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important à ne pas oublier, c'est vraiment la distinction entre opinion, valeur et effet scientifique. Pourquoi ? Parce que autant j'entends la nécessité d'être à l'écoute, de respecter les points de vue quand on va à la rencontre de l'autre, quand on est aussi dans une discussion politique, justement, autant ça me semble très dangereux de considérer que tout est point de vue. Y compris ce qui est de l'ordre du fait scientifique. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la post-vérité, on voit ce que ça peut donner. Il y a un moment, tout discours n'est pas équivalent à un autre discours. Il y a des discours qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'épreuves dites scientifiques, où on fait un dispositif dont on ne connaît pas l'issue avant de le faire. Alors, des fois, on le fait un peu de manière à orienter un peu les résultats, mais il y a quand même toujours un minimum d'incertitude dans les dispositifs scientifiques, et c'est bien ça qui fait que c'est scientifique, parce qu'on éprouve la réalité et puis on attend de voir ce qu'on récupère. Ça, c'est pas exactement la même chose. Ça n'a pas le même degré de validité qu'une opinion qui, par ailleurs, est tout à fait légitime et qui a un autre type de légitimité. Voilà, et je pense que globalement dans la société, mais aussi dans nos actions, il faut savoir à un moment faire la part des choses entre les deux, et surtout ne pas, renier l'expertise sous prétexte que c'est trop top-down, que c'est descendant, que c'est pas assez démocratique. Non, la science n'est pas démocratique, c'est pas son objet. La science est scientifique. Ce qu'on lui demande, c'est d'être éprouvée scientifiquement. On ne demande pas d'être démocratique. C'est un autre registre de justification, justement. Donc de pas tout mélanger ces registres, et ça, c'est très important, y compris dans une démocratie. Voilà, tous les systèmes totalitaires ont commencé par désinguer les élites intellectuelles, hein, quelles qu'ils soient, de quelque nature qu'ils soient. Donc bien avoir ça en tête.
Une réaction. Ouais. Fred, Alex, et si je relance mon invitation, si ce qui vient d'être dit vous fait réagir, venez.
Alors, je ne sais pas si ce qui vient d'être dit était lié à... Bon, j'ai parlé tout à l'heure des points de vue et d'écoute, c'est vrai, et de respect. En aucun cas, je ne remets en cause... Je suis plutôt scientifique de formation. Donc, je fais juste la différence. Je me rappelle beaucoup qu'on parlait au moment du nucléaire de ce qu'on opposait expert contre expert. on a tous fait l'expérience dans des débats scientifiques ou dans des discussions avant ou après l'apéritif de gens qui ont des compétences techniques ou scientifiques et qui font appel, qui disent des choses qui sont l'inverse l'une de l'autre. Donc, loin de moi l'idée de refuser les vérités scientifiques. Par contre, on a aussi, et je suis aussi épouvantée que toi par les contre-vérités ou les post-vérités, ou la déformation des faits, avec tous les effets qu'il peut y avoir. Mais je pense qu'on est légitimement, on est légitime à s'interroger justement sur les études scientifiques et surtout, enfin non pas les études scientifiques, mais en tous les cas certains aspects. Et on sait que quand on est dans le ressenti, il faut le déconstruire un tout petit peu pour justement retourner vers les faits. Donc tout ça, c'est ces dispositifs que je pense intéressant de partager avec les adultes, mais aussi avec les jeunes et avec les enfants, avec effectivement tout ce qui circule sur Internet, le poids de certaines contre-vérités, l'attitude de ben, ne te satisfais pas d'un point de vue, ne te satisfais pas d'un avis, ne te satisfais pas d'une image, cherche, réfléchis, doute. C'était plus ça que je voulais dire. Hein. C'est-à-dire que effectivement, je pense que ça, c'est fondamental. On a à contribuer, tant que faire se peut, à la culture de la recherche et de l'incertitude. Et aussi, quand je vous parlais d'experts contre experts, méfions-nous aussi quand on dit statistiquement ou du haut d'une chaire, effectivement, il est prouvé que... ça c'est aussi des approches, l'approche scientifico-technique, qui peut servir des logiques pas très honnêtes. Et là, moi, il y a une chose que tu as dit que je trouve très importante et qu'il est vraiment important d'entendre porter par l'institution, comme tu l'as dit, quand tu as rappelé qu'on se donnait comme objectif de ne pas mentir. Et puis le deuxième que j'ai perdu...
La transparence.
C'est un mot vieillot qui, comme d'autres, doit être réveillé. C'est le mot d'honnêteté. C'est-à-dire que vraiment la notion d'honnêteté intellectuelle, elle va aussi avec toute cette culture du doute. Et voilà ce que j'avais juste envie de dire avant que mon voisin
Simon
Alex,
ou Karine.
En deux mots, Karine, je suis de formation ethnologue et d'une branche aussi qui s'appelle l'écologie politique, qui interroge justement les questions de décision, qui prend la décision, comment, pourquoi, les questions de contrôle, y compris le contrôle sur la recherche et comment est-ce qu'on arrive à faire des choix, à la fois des choix technologiques, remettre justement les enjeux politiques qui sous-tendent les choix techniques notamment. Et oui, voilà, je voudrais juste témoigner des processus de recherche-action dans lequel on est, c'est-à-dire où il y a vraiment des interactions, où les chercheurs se mettent aussi au service de questionnements qui viennent de la société civile, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette question de... je saurais pas reprendre les mots, mais que la démarche scientifique, elle n'a pas à être légitime d'un point de vue démocratique, mais il y a aussi beaucoup de courants, notamment en milieu anglo-saxon aujourd'hui, qui sont peut-être pas encore très présents en France, mais sur la démocratisation des choix de la recherche, et le fait que les chercheurs peuvent aussi... intégrer des questionnements qui viennent de la base, donc dans le monde agricole, dans le monde de l'écologie. Voilà, je voudrais juste souligner, moi je travaille donc sur les questions d'agriculture notamment, et les rapports hommes-femmes en agriculture, mais que l'INRA a passé je ne sais combien de décennies à faire aucune recherche sur l'agriculture biologique par exemple. Donc il a fallu... donc ça c'est des choix qui sont des choix politiques et qu'on retrouve dans la recherche. Donc on ne peut pas nier ce lien qui est très très fort.
Deux secondes, est-ce qu'après je vais aussi donner la parole à Alex?
Effectivement, sur la gouvernance de la recherche, oui. Il y a beaucoup à faire dans la démocratisation, si on est bien d'accord. Mm-hmm. En revanche, le processus scientifique, oui. D'élaboration des faits...
On peut dissocier les deux.
Si, il y a un moment, il faut les dissocier. C'est-à-dire, quand on définit les programmes de recherche, c'est du politique, il faut que les citoyens soient là. Quand on fait une expérience en laboratoire, on ne vote pas pour le résultat de l'expérimentation. C'est juste ces deux moments-là qu'il faut bien séparer.
Distinguer.
Mais sinon, oui, tout à fait, science-société, il y a beaucoup de choses à faire. L'esprit critique, c'est super aussi, et il faut maintenir ça. Ça fait partie partie. Voilà, et sinon, juste, voilà, la science est normalement un contre-pouvoir, il faut qu'elle puisse le rester aussi. Et ce n'est pas toujours le cas, elle est instrumentalisée, c'est vrai également. Voilà, c'est juste ces trois petits points.
Alex également sur ce point.
Oui, merci. Oui, sur le, en fait, pour continuer un peu, j'étais assez dans l'état d'esprit de Frédéric là. Sur interroger l'expertise, la connaissance, pourquoi depuis plusieurs années aussi dans l'éducation environnement on interroge cette place-là de l'expertise et de la connaissance. Je crois que c'est parce que aussi on est en contact avec du public et plus que le savoir, on interroge qui aimait le savoir, comment on l'aimait et comment on le reçoit. Et que du coup, personne ne nie, enfin je crois pas, le fondamental de la recherche scientifique. On aime d'ailleurs, on aime tous. Lire ou entendre une pointure sur un sujet qui nous passionne. Mais du coup, on va s'intéresser à comment les gens reçoivent cette information et comment la connaissance, elle prend du sens pour eux. Et produire le savoir pour le produire, c'est intéressant fondamentalement. Dans nos métiers, c'est assez éloigné si les gens ne s'en empoignent pas. Et je ne sais pas où en sont les recherches sur la théorie de l'homme rationnel ou en tout cas... Je crois pas qu'on change uniquement avec une somme d'arguments. Et d'ailleurs, en tout cas, c'est parti pris de l'éducation environnement de rendre sensibles les choses, la relation, le sens de la connaissance, la relation avec l'environnement. Et du coup, c'est ça qui nous fait, je pense, interroger aussi cette place de l'expertise et de la connaissance. Pour finir, juste par rapport à une phrase que Solange a dit tout à l'heure, effectivement, je pense que tout le monde est content quand on se fait faciliter la vie. Tu parlais des neiges tout à l'heure. La question que... Alors, peut-être qu'on pose trop de questions, mais c'est du coup, qui décide que la vie est plus simple de telle manière? Et c'est peut-être un autre sujet.
Simon?
Alors moi, je ne vais pas répondre à la question.
Mais tu vas ouvrir une nouvelle question.
Je vais très bien ouvrir. Alors moi, du coup, je rentre rapidement. Je travaille dans une association de protection de la nature. Et nous, on est confrontés à quelque chose d'assez original. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui vont être confrontés à la même chose. Du coup, rapidement, on essaie de défendre la nature, entre guillemets, défendre la nature sur tout le territoire des Hautes-Alpes. Donc c'est un sacré challenge et il y a beaucoup de choses. On ne peut pas être partout. Et du coup, on voit qu'il y a beaucoup de manques, beaucoup de besoins. Et paradoxalement, on voit régulièrement des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Ouais, j'ai envie de défendre la nature, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Et nous, on se trouve vachement désemparés parce que c'est hyper compliqué de quelqu'un qui arrive comme ça et qu'est-ce qu'on lui dit de faire, en fait. Quelqu'un qui vient, qui veut aider avec des bonnes intentions, mais concrètement parlant, c'est très difficile. Et souvent, ça demande, on parlait d'experts à l'instant, là, souvent, ça demande déjà d'avoir des sacrées connaissances dans certains sujets, certains dossiers. Enfin, voilà, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont des solutions, des idées, mais voilà, chacun à son échelle, c'est... Il y a différentes mesures pour s'investir un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie, mais voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont confrontés à ces questions. J'ai envie de m'investir, mais en fait, sur le terrain, c'est hyper compliqué de trouver des actions concrètes, accessibles à tout le monde.
On a des bonnes volontés et on ne sait pas quoi en faire, c'est ça. Est-ce que d'autres personnes sont confrontées à ce paradoxe-là? Qui veut réagir? Non? Ça mène pas de réaction? Nicolas.
Moi, ça va dans le même sens que Gladys Mathieu du réseau Éducap, du coup, l'éducation à la montagne alpine. Pour rebondir sur ce qu'a dit Simon, je trouve qu'on a très souvent effectivement cette réaction de dire bon alors qu'est-ce qu'on fait? Et notamment par exemple dans le thème du changement climatique, c'est classiquement journaliste qui appelle, qui veut avoir des infos. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre la question? Alors que c'est pas des questions auxquelles on peut répondre simplement comme ça. Il n'y a pas une recette toute faite et il n'y a pas une solution immédiate qui marche dans tous les cas, etc. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident de répondre à ce genre de questions posées comme ça.
David, sur le même sujet? Non, mais si c'est sur le même sujet, tu peux prendre la parole.
Oui, bah oui,
sinon, voilà.
Enfin, pour moi, ça questionne du coup, qu'est-ce que c'est que la posture d'accompagner? À la limite, si la personne elle vient en demandant qu'est-ce que je peux faire, peut-être qu'une réponse est qu'est-ce que tu sais faire, et qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimerais faire, et ensuite de lui donner les pistes sur t'as envie, je sais pas, n'importe quoi, de l'outiller pour l'accompagner, pour l'aider à aller vers ce vers quoi elle a envie d'aller, ou ce vers quoi elle est bien d'aller, etc. Et du coup, il y a un truc que je n'ai pas entendu beaucoup depuis ce matin sur qu'est-ce que c'est que l'accompagnement. Comment on définit ça, quoi. Et pour moi, il y a quelque chose de fondamental, qui est que l'accompagnement, il intervient à partir du moment où il y a une demande. Et là, si la personne elle vient avec une demande, effectivement, on peut l'accompagner. Tant qu'il n'y a pas de demande, on est dans autre chose. On peut faire de la sensibilisation, de l'éducation, du porter à connaissance, etc. Mais tant qu'il n'y a pas de demande de changement, on ne peut pas accompagner du changement. Voilà. Et du coup, j'ouvre sur une autre question, parce que j'ai entendu deux terminologies. C'est l'accompagnement au changement et l'accompagnement du changement. Pour moi, il y a une différence importante, et je ne sais pas si... Enfin, du coup, qu'est-ce que vous mettez derrière?
Et c'est pour toi, c'est quoi la différence? Ça peut être intéressant que tu me donnes ton avis là-dessus.
Ben, l'accompagnement du changement, pour moi, c'est l'accompagnement du changement que les gens ont voulu. Le changement dans lequel les gens, ils sont déjà, ils sont demandeurs de quelque chose, ils sont demandeurs d'être accompagnés dans leur changement. Alors que l'accompagnement au changement, c'est comment on fait en sorte que les gens y vivent le mieux possible un changement qu'on leur impose. Voilà, il y a peut-être un positionnement à avoir, enfin, ou peut-être les deux sont nécessaires, mais en tout cas, ce n'est pas la même posture.
Est-ce que ça amène des réactions au centre ou parmi? Une nouvelle fois, je vous invite à venir partager vos avis sur la discussion qui est en cours.
Je trouve que la différence entre les deux est intéressante à souligner, même si je pense qu'il y a une complémentarité, qu'accompagner le changement des uns amène à accompagner au changement les autres, parce qu'il devient visible, et puis il y a des groupes qui commencent à changer, à se transformer, à faire évoluer des pratiques, ça devient visible dans un espace public quand ça se démultiplie suffisamment. Donc ça fait exister des possibilités sociales qui n'étaient pas là, donc les autres groupes au bout d'un moment sont... passe du stade de pré-contemplation au stade de contemplation, pour utiliser le modèle transtéorique du changement, qui est, voilà, bref, qui a ses limites, mais qui a son intérêt aussi, avec plein d'autres modèles dont Le Graine a fait la revue récemment. Par contre, moi, ce qui me paraît effectivement important, c'est que dans beaucoup des discussions qui ont lieu ici et qui ont eu lieu toute la journée, c'est... qui décide du changement, comme s'il y avait toujours un acteur rationnel qui allait décider du changement. Or, le changement est déjà là, enfin, en fait, il est extérieur. J'ai l'impression que parfois, ça devient difficile d'envisager dans une époque un peu... où la rationalité se confond avec une forme d'individualisme, quoi, ou de personnalisme qui voudrait que chacun décide toujours... en toute conscience, et qu'on ne serait plus jamais les objets de situations qui nous dépassent. Or, je crois que c'est encore le cas très souvent, et que penser qu'on doit choisir, ou qu'il faut choisir, ou qu'il faudrait choisir systématiquement, en fait, renvoie à une mystification un peu libérale, qui font qu'en fait, est-ce qu'on a vraiment le choix, en fait, au final? Donc, cette idée d'accompagnement, c'est vrai qu'elle est intéressante, parce que, soit au changement, soit du changement, est-ce que, et jusqu'à quand on doit laisser penser qu'on a le choix, quitte à faire croire qu'il y a une réversibilité ou que, en fait, l'humanité serait libre de choisir tout ce qu'elle a à choisir. Donc, elle serait toute puissante, quelque part. Donc, elle déciderait du sort du monde. Ou alors de dire, mais de toute façon, on n'est pas dans ce scénario-là. On est dans le scénario où le changement est là. Et ce qu'il s'agit, c'est de savoir comment... ensemble, on l'accompagne, on va avec, on fait avec, tout simplement. Et je pense que ça renvoie à tout un tas de choses qui sont de l'ordre de la priorité, qui sont de l'ordre de la place, de la raison, de l'intention et de ce schéma qu'on connaît bien en psychologie, puisqu'on a la théorie du comportement planifié. Vous savez, c'est celle où on a attitude, normes et contrôle qui conduisent à l'intention, et l'intention conduit au comportement. Donc, c'est cet être effectivement rationnel qui construit une image, un raisonnement, qui va construire une intention d'agir, qui va construire ensuite l'action. C'est très rationnel. Il y a d'autres théories à l'heure actuelle et d'autres chercheurs et des livres qui font pas mal de bruit qui proposent de dire on va arrêter avec la rationalité. On arrête. En fait, on fonctionne d'abord à l'automatisme et créons des sociétés qui font parler cet automatisme et arrêtons de penser qu'en réfléchissant, on agira mieux que sans réfléchir. On est à un moment où c'est véritablement le débat, et un vrai débat qui va aller beaucoup plus vite que ce qu'on croit par l'émergence de l'intelligence artificielle, hein, où il s'agit de savoir ce qu'on va simuler, entre un automatisme qui répond à des situations et une intention qui prend ses distances, etc. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a la place, évidemment, comme toujours, pour une dialectique entre les deux, qu'il n'y a pas un modèle qui prédomine l'autre ou une valeur qui prédominerait l'autre. Il y a des fonctionnements qui sont coprésents, qui sont présents tous les deux. Et quand on parle par exemple de nudge, il y a une approche du nudge qui est une approche très marketing, qui consiste à dire on va obtenir à tout prix le comportement. Et quand on monte de tant de pourcents le comportement, on a gagné et on est dans un modèle un peu impulsif, c'est-à-dire que oui, on va influencer pour agir, on va dire 70%, que ce soit vrai ou pas, on va dire ça augmente de plus en plus, qui revient au même. Bref, et on va obtenir du comportement. Et la question, c'est, on n'est pas passé par une intention. Souvent, dans les nudges, encore celui du 70% n'est pas vraiment le meilleur exemple, mais on passe par un système automatique. C'est-à-dire on va répondre à des influences de l'environnement qui vont nous amener à agir parce qu'on est poussé à agir et puis voilà, on a obtenu le comportement. Mais qu'est-ce qui se passe après ce comportement-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit toujours être dans des modèles de construisons l'intention clairvoyante et puis on a l'action, ou est-ce qu'on doit aussi reposer sur des modèles qui font agir et après on pense à ce qu'on vient de faire? Et là, je crois qu'il y a en fait une convergence entre une certaine approche des nudges et une approche de l'éducation populaire qui consiste à dire on fait d'abord, on est plongé en situation, on est conduit à agir, puis après ensemble on réfléchit à ce qu'on vient de faire. Et je sais qu'il y a des débats autour des nudges qui visent à cliver beaucoup des approches en disant, bon, il y a l'approche de l'automatisme marketing et il y a de l'approche démocratique, participative, de la conscience collective. Et je crois que c'est un piège, que cette différenciation est un piège et nie quelque part le fait qu'on fonctionne de deux manières et qu'il n'y a pas une manière qui aurait plus de valeur ou plus d'éthique que l'autre.
Alors, Alex souhaitait s'exprimer, Solange, et du coup Lara qui nous rejoint derrière.
Je pense aussi, je suis d'accord avec toi, enfin, je pense qu'effectivement on réagit par rapport à un contexte, enfin, vous connaissez certainement plus les théories que moi, ça ferait plaisir à Hervé qui ne peut pas être là, de Franche-Comté, là, qui se dit, si nos comportements, ils sont, ou le changement ou le comportement, il est inné ou acquis. Si nos comportements ils sont innés, notre boulot il sert à rien. Enfin, on peut pas changer les gens de toute façon. Donc, voilà. Et puis sur l'accompagnement du changement ou au changement, moi pour le coup j'avais plutôt la perception inverse. Pour moi, accompagner au changement, si on met rien derrière, c'est accompagner au changement de manière générale. Et du coup permettre aux personnes d'accepter ou d'être plus à l'aise avec un changement qui a lieu aujourd'hui, mais aussi être plus à même à anticiper ou appréhender un changement vis-à-vis des enjeux qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui et qui surgisseraient de terre dans 10 ans. Et du coup, pour le coup, ce point de vue, il me semble, se relie avec nos voeux d'épanouissement de l'individu, d'autonomisation, etc. On accompagne les gens pour qu'ils appréhendent plus facilement n'importe quel changement.
Solange.
Oui, je voulais juste rappeler que peut-être en raison de vos métiers globalement, vous êtes beaucoup en contact avec le public. En fait, vous avez une focale qui est très individuelle de la question, qui est effectivement un peu libérale. Donc, d'ailleurs, on parlait de comportement. Hein, ça, c'est un truc de psycho et d'économie. Mais on est des êtres sociaux qui vivons dans des organisations collectives. Et si on regarde les capacités de faire au niveau individuel, on a quelques études là-dessus. Le défi famille énergie positive, je suis sûre que la majorité d'entre vous connaissent ça. Vous avez des gens qui sont quand même très motivés, qui sont coachés. Ils arrivent en gros en moyenne à 12% d'économie d'énergie. Quand on a des études témoins sur le gaspillage alimentaire, c'est les meilleurs chiffres, on arrive à 40%. Sur les foyers témoins à déchets, c'est 21%. Donc vous voyez bien que la marge de manœuvre d'individus qui sont bien conseillés et très motivés, ce n'est pas le facteur 4. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'agir individuel, qu'il soit automatique ou issu d'une intention, il est de toute manière encadré par les possibilités collectives qu'on lui laisse. Et donc à chaque fois, essayez aussi de repenser que derrière l'individu, et c'est pour ça que c'est dangereux de lui mettre tout sous les épaules, le pauvre petit individu, parce qu'il n'a pas la marge de manœuvre sur plein de choses. Donc il y a plein de choses qui sont de l'ordre des infrastructures à disposition, de l'organisation collective, des temps de travail, le développement du télétravail ou non, etc. Donc pensez aussi à ces éléments-là, et dans vos activités, essayez de voir aussi s'il n'y a pas des choses à faire. Je sais qu'il y en a qui sont en lien avec les élus, donc là, les questions d'aménagement du territoire, voilà, tous ceux qui sont dans les chargés de mission PCET ont accès à ces questions-là. Donc, ce n'est pas directement dans l'interpersonnel. Mais voilà, pensez aussi que votre petit individu, il est quand même bien contraint aux entourneaux et qu'il faut aussi lui donner de la place.
Lara.
Merci, alors c'est super en lien. Et tu, Alex, tu as parlé de ce que je voulais aborder après l'intervention de Nicolas qui disait qu'il y a des changements pour lesquels on n'a pas le choix, en fait, ils vont être là. Et du coup, je voulais partager que pour moi, le degré d'accompagnement, alors au ou du changement, chacun interprète comme mieux, mais en tout cas dans la logique de générer une capacité à changer chez chacun, en fait, pour moi, le degré le plus important, c'est quand j'interviens, est-ce que ce que je fais va augmenter la résilience du système, la résilience du groupe de personnes avec qui je travaille, leur capacité à absorber, à s'adapter, à vivre ou à créer des choses avec les changements à venir ou pas. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est important, parce que je peux conduire un changement de A à B, et ça va réduire la résilience du système. Donc voilà, l'enjeu pour moi de la posture d'accompagnement, elle est là, et c'est multidimensionnel, et c'est à la fois, comme tu le dis, sur des échelles collectives, d'infrastructures, d'aménagement, de choix territoriaux, c'est aussi à des échelles d'individus, comment j'ai vécu un changement passé, est-ce qu'il me reste une cicatrice, et du coup, les prochains changements, ça va être douloureux, ou est-ce que du coup, j'ai trouvé la force, la capacité d'action, c'est les processus de deuil. Et comment, du coup, les prochains changements me sembleront moins difficiles.
Ingrid
bah, vas-y, parce que moi, je pense...
Non, tu es sur autre chose ? Ok. Ouais.
En fait, je suis venue m'asseoir là parce que je voulais dire un peu la même chose qu'elle, au moins bien. Non, en fait, je voulais juste dire qu'effectivement, il y avait un terme que je trouvais qu'on n'avait pas assez évoqué, c'était le terme d'adaptation. Et qu'effectivement, on est là pour amener effectivement, voilà, un processus de changement pour une prise de conscience collective, pour aller vers quelque chose de différent. Mais je me demandais si du coup, bon, c'est peut-être encore l'objet d'une autre question, mais je me disais, est-ce que nous, après, dans nos missions d'éducation à l'environnement, on ne sera pas amené dans quelques années, on pourrait peut-être s'y confronter déjà maintenant, à amener les gens à s'adapter, à les accompagner dans les adaptations qui vont être de fait inéluctables, en fait, et qu'on n'aura pas le choix. Voilà, il y avait ça. Et puis, j'en profite aussi juste pour rebondir sur une petite phrase moi, qui m'a juste un petit peu interpellée. C'était justement simplifier la vie aux gens. Oui, je crois que tu l'as soulevé. Enfin, voilà, ça dépend pour qui. Ça simplifie la vie à qui ? Parce qu'il y a des choses qui nous simplifient la vie dans notre pays. Qu'est-ce que ça a comme répercussions partout ailleurs dans le monde ? Et là, intervient pour moi un autre sujet qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder une autre fois, c'est toute la question de la transition sociale, au niveau de la mondialisation, etc. En fait.
Peut-être une première réponse.
Oui, réponds, okay. Oui, c'est autre chose.
Non, sans répondre, je pense que la question de du rapport entre l'adaptation et l'évitement ou la diminution des impacts, etc., elle est... en tout cas, en termes psychosociaux, elle est fondamentale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui montrent que travailler sur l'adaptation amène en fait un changement, une prise de conscience beaucoup plus importante qui amène des pratiques qui ne sont pas des pratiques d'adaptation, mais qui sont des pratiques de, je ne trouve pas le mot français, mitigation, de réduction d'impact, quoi. Voilà, d'atténuation.
C'est ça, l'atténuation.
Voilà, d'atténuation. Et que du coup, ça a effectivement l'effet, cette présence du changement, où on n'arrête pas de dire on va impulser du changement, mais on va surtout essayer de faire face à celui qui est déjà, dont on hérite, face auquel on a affaire, etc. Ça crée des effets de présence psychologique collective, hein, parce que on est dans le domaine, enfin en tout cas, moi je suis dans le domaine de la psychologie sociale, donc plutôt la psychologie des groupes, que l'adaptation fait exister quelque chose de manière très concrète là où elle était restée abstraite, comme la question de la résilience, évidemment, comme toutes ces questions qui consistent à dire vous n'êtes pas en train d'essayer d'éviter quelque chose, vous êtes en train d'essayer de faire face à quelque chose qui vient et qui est là. Et en fait, ça rend tellement présent psychologiquement quelque chose qui était distant, qui était abstrait, que ça produit des effets qui sont des effets d'atténuation. Ça a été montré en Nouvelle-Zélande sur la question des politiques côtières et de la manière dont on va urbaniser les côtes avec la montée des eaux, etc., qui ont montré que rien que commencer à poser cette question-là en termes d'adaptation, amener des comportements d'atténuation. Alors là, il y avait effectivement un effet de halo sur tout un tas d'autres comportements extrêmement, extrêmement forts. Donc les deux sont très liés, et c'est là où il faut faire attention, à mon avis, à la rhétorique ou au discours qui consiste à dire il va falloir changer là où ben, en fait faut aussi un peu dire il faut faire face au changement, c'est-à-dire c'est comme tu disais, c'est pas chacun qui décide, c'est on a un contexte qu'on partage et face à ce contexte il va falloir ben, trouver les moyens de s'y adapter tout en atténuant.
Avant que tu prennes la parole, Ingrid, donc tu vas proposer un nouveau sujet. Il nous reste à peu près un quart d'heure avant un temps de conclusion. Donc, au centre, mais tous ensemble, s'il y a encore des aspects qui n'ont pas été soulevés, des choses qui vous ont choqué aujourd'hui, venez le partager pour voilà, relancer la discussion. C'est encore le temps. Ingrid.
Merci. Donc, Ingrid, je suis indépendante et je suis animatrice nature et formatrice en éducation à l'environnement. Je voulais profiter de la présence d'un expert parce que j'ai entendu parler de la théorie de la protection motivation et j'ai trouvé que des infos en anglais et du coup, je ne sais pas.
J'ai tu
pas
peux répéter, je n'ai pas bien entendu.
La théorie de la protection motivation.
Ok.
Et ça va, je trouve, dans le sens de ce que vous étiez en train d'évoquer juste avant.
Oui, la théorie de la motivation à la protection, je pense que c'est enfin, on l'a traduit comme ça. C'est, alors, je ne sais plus, c'est une des théories qui fait partie du panel traduit par le Grain. Donc, c'est une des théories qui cherche à décrire comment les individus, là, on est plutôt à un niveau individuel, vont concevoir des bénéfices et des risques liés à une action et comment ces bénéfices et ces risques vont être contrebalancés par les bénéfices et les risques de comportement de protection. C'est-à-dire que c'est un peu des théories de l'homme rationnel, effectivement. Ça a le mérite quand même de complexifier un tout petit peu l'approche de la perception à la fois d'un danger ou d'une opportunité ou d'une menace et la question de comment un individu, voire un groupe, mais là on est plutôt dans l'individu, va attribuer ou affecter des bénéfices ou des coûts au comportement de protection. Que en tant qu'accompagnant ou en tant que personne qui sensibilise, on considérerait comme évident. Ce comportement est un éco-geste, donc il est évident, donc il est positif, etc. Et ça met en avant le risque lié à des comportements qui sont généralement perçus comme des comportements de protection, donc forcément positifs. Donc c'est une balance un petit peu rationnelle. Et donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits pour essayer d'affiner le modèle et de montrer que ben, ce qui fonctionne le plus, c'est davantage le danger par rapport à un comportement qui, lui, a beaucoup de coûts, alors que c'est le bénéfice pour un comportement qui, lui-même, a des bénéfices, comportement de protection. Bref.
T'as compris, Ingrid ?
Elle est difficile à résumer comme ça, mais en tout cas, ça montre. C'est la motivation basée sur les coûts et les bénéfices, à la fois du risque et à la fois du comportement de protection.
Peut-être la fin de journée, voilà. Un peu dur à suivre, il faudra revenir dessus. Hein.
Sur la question de la légitimité de simplifier pour qui, c'est la même question que celle des bons gestes pour qui. Il y a toujours cette même question, effectivement, il y a différents registres de valeurs. On peut se dire, pareil, les circuits courts, c'est super, mais du coup, quid des gens qui sont plus loin et qui vendaient des marchandises. Enfin, il y a plein de moments où on peut se poser la question là. Non, sur l'idée de simplifier la vie, alors c'est peut-être moins à vous, effectivement, qu'il faut le dire, qu'à d'autres que je côtoie plus tous les jours. Mais par exemple, dans la série exemple concret, si vous voulez que les gens arrêtent d'utiliser thermomètre au mercure, vous pouvez faire une campagne de sensibilisation, vous pouvez nudger thermomètre au mercure en mettant tête de mort dessus, ou vous pouvez interdire la commercialisation de thermomètre au mercure. Et ça simplifie la vie de tout le monde. Donc simplifier la vie aux gens, c'est d'une part jouer sur les moyens technologiques à leur disposition, mais aussi, et ça c'est une chose à laquelle je suis très attachée et la dame le dit aussi, c'est pas uniquement jouer sur l'individu, c'est jouer sur l'ensemble des acteurs, y compris économiques, qui cadrent la marge de manœuvre de l'individu. Donc alors effectivement, on sait historiquement la question du changement de comportement, elle est beaucoup montée ces dernières années. Il y a un très bon livre de Sophie Dubuisson-Kelly qui s'appelle « Gouverner les conduites » et qui explique que c'est aussi une manière indirecte des pouvoirs publics de réguler la sphère marchande. C'est-à-dire en gros, en jouant sur les préférences individuelles du consommateur, on va faire en sorte qu'on va tirer l'offre dans des directions vertueuses. N'oublions pas dans tout ça que c'est aussi faire peser beaucoup sur le consommateur à qui on demande de savoir lire parfaitement toutes les étiquettes, de faire des calculs d'optimisation langue, fonction, préférence, machin, etc. Bref, qu'on peut aussi, enfin, que ça ne dispense pas à un moment des leviers classiques que sont l'éco-conception et tirer l'offre vers le haut. Donc, simplifier la vie des gens, c'est plein de choses qui s'adressent à lui, qui s'adressent aussi à d'autres. Voilà. Après, dès qu'on dit que quelque chose est bien, dès qu'on a un jugement de valeur, effectivement, celui-ci dépend de registre et d'un point de vue. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Après, il y a quand même des moments où on a quelques intuitions que c'est quand même bien. Voilà.
Marie de Cornu, je voudrais parler de l'articulation entre justement les choix, les comportements individuels et la société dans laquelle on vit. Parce qu'en fait, on parle beaucoup là de l'accompagnement de l'individu, mais en fait, j'ai remarqué que, et aussi même pour moi, que c'est difficile des fois d'assumer, de faire différemment, de faire plus sobrement, tout ça, parce qu'on s'extrait d'un milieu social ou d'un monde, et du coup, et qu'on a besoin tous d'être intégrés socialement à d'autres, et que des fois, d'assumer la différence, c'est pas facile, et que c'est des fois plus facile en fait de faire comme les autres, même si c'est moins écologique, moins machin, parce que socialement c'est plus facile à vivre. Et du coup, ça pose la question de comment on amène une culture où justement la sobriété ça devient la norme, où aussi la question des identités en fait, où écolo c'est plus être marginal ou quoi, et du coup ça pose vraiment ces questions là. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde fait du développement durable. Hein. Des fois, on le dit. Hein. Sauf qu'en fait, en 15 ans, le trafic aérien a doublé. Et donc, du coup, se pose la question des choix individuels, mais aussi, effectivement, de qu'est-ce qu'on met comme contrainte réglementaire ou quoi, ou de prix, ou... En fait, on est plein de bonnes intentions, et la plupart des gens le sont. Sauf qu'en fait, on vit dans un monde qui n'arrête pas de nous inciter à produire plus, à consommer plus, etc. Et qu'on doit faire face à ces deux écartèlements. Et si on ne veut pas finir fou, on est tous à combiner. Donc, c'est pas facile d'être passeur du changement et de le vivre soi-même, en fait.
Juste vraiment en deux mots, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué dans les échanges. C'est... je pense que c'est perceptible et que tout le monde le sait, mais à quel point tout ce qui se fait chez tous les gens qui sont ici et relève de la navigation contre le vent ou de ramer contre le courant. Donc faire du surplace, c'est vachement bien.
On est content déjà.
Non, mais vraiment, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une énergie déjà à déployer pour essayer de contrecarrer les effets de l'esprit du temps alimenté par les médias, par la pensée néolibérale, par les effets directs ou indirects du capitalisme marchand, etc. Déjà, si la situation n'empire pas beaucoup plus vite, c'est qu'il y a déjà un énorme travail qui est fait. Et je pense que se demander à quel point on est en train d'essayer de mettre des grains de sable dans les rouages idéologiques de moi ici maintenant pour essayer d'être d'entre du nous dans un espace partagé qui pense au plus tard, c'est déjà énorme. Et c'est vrai qu'on a affaire, et je dis « on » parce que dans les études c'est pareil, ou dans les accompagnements que je peux faire de projets, c'est la même chose. On prend les gens évidemment comme ils viennent, et ils viennent marqués par la pensée néolibérale et les effets idéologiques de « moi ici, maintenant ». Donc leur parler de « demain, plus tard » et de « nous », ça ne résonne pas, ça ne fait pas sens, etc. Donc il y a tout un travail d'accueillir, de partir de ça, d'essayer de commencer à proposer d'autres, non pas valeurs, mais moi je dirais juste un espace psychologique différent dans lequel penser. Donc effectivement, je pense qu'il y a d'abord le fait que tout ça est complètement à contre-courant, a déjà à rattraper les effets d'un certain nombre de tout un matraquage médiatique et publicitaire, et que du coup, même reculer un peu, ce serait déjà pas mal, et le fait qu'on soit statique est déjà énorme.
Toi aussi, Fred, tu fais du surplace, es-tu déjà à contre-courant ?
En fait, c'était effectivement rappelé, parfois on s'inscrit nous-mêmes tellement dans nos propres réalités et nos propres discours qu'on ne se rend plus compte de ce qui se passe, effectivement. Donc, lorsqu'on se dit que le développement durable a tellement pris sa place et que c'est... Moi, je suis quand même aussi dans un monde où, puisqu'on a parlé de démocratie, on dit des écologistes que ce sont des ayatollahs verts, que ce sont des bobos des villes. Donc, c'est vrai que dans le feu de l'action, de la formation, du plaisir intellectuel qu'il y a à échanger entre nous, il faut quand même qu'on se rappelle que aujourd'hui, le jeu démocratique a choisi des gens qui nous renvoient à la boboïsation et à ce genre de choses. Donc, c'est pour amorcer un début de conclusion. Je crois aussi qu'on a énormément besoin de se tenir chaud l'hiver en avançant dans nos pratiques, dans nos réflexions, dans nos allers-retours aussi intellectuels, parce que je partage quand même l'avis de Nicolas, enfin un bout de ses avis en tout cas, qui est effectivement de se rappeler le jeu politique général. Ça va aussi dans le sens de, pour accompagner un public qui est noyé de ces informations sur la consommation et sur la justesse qu'il y a, par exemple, à choisir le dernier smartphone et... Je crois que les freins qu'on a identifiés dans nos actions éducatives, elles sont de cette nature-là aussi. C'est-à-dire qu'elles sont... on sait très bien que la société émet des langages paradoxaux. C'est à nous de choisir les bouts de langage qui vont servir l'émancipation des gens avec qui on est. Il y a des, mais je crois énormément, on parlait tout à l'heure des fake news. Choisissons les informations vraies, prouvables et qui servent notre propos. C'est assez important d'aller dans ce sens-là.
Nicolas ?
Oui, ça va, vous n'avez pas trop... Ça commence à être dur, non ?
C'est dur. Ah,
j'ai l'impression. Hein, ça... Donc moi, c'est Nicolas Debré, je suis agitateur de particules démocratiques. Et pour de vrai, c'est mon métier. Et là, en ce moment, il y a deux trucs. En fait, il y a ma tête qui est en train de dire, bon, attends, j'ai un gros niveau intellectuel, il faut quand même que tu arrives à dire quelque chose d'intelligent, et tout ça.
Ça fait ça.
Et puis, il y a le côté corporel, émotionnel, qu'elle a, qui flippe, parce qu'il y a du monde, tout ça. Est-ce que je suis légitime à parler ? Et cet après-midi, j'ai... Enfin, il y a eu plein de trucs géniaux aujourd'hui, vraiment riches, merci. Et il y a eu le super atelier de Julien là, sur le, je ne sais plus comment tu l'appelles, l'animation là.
Les goûts de l'aventure là.
Et qui, voilà, où il nous a fait tout un préambule sur la question des multiples personnes qu'il y a en nous, sur voilà, l'intelligence intellectuelle, mais aussi l'émotionnel, le rationnel, les rêves, la peur, tout ça. Et tout à l'heure, Nicolas, quand tu disais... Tu te méfiais de... Alors, je ne sais plus exactement comment tu l'as formulé sur l'engagement des personnes ou comment tu l'as formulé au début en disant attention sur ce qu'on se met, sur l'implication personnelle, sur comment on s'implique, nous, en tant qu'acteurs du changement. Moi, je l'ai pris comme ça en disant, oui, attention de ne pas trop s'impliquer personnellement, de ne pas y trop mettre de personnes. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, pour accompagner le changement, c'est justement en n'étant pas simplement sur une posture cérébrale, mais c'est que c'est d'y engager de l'émotion, c'est de l'engager du cœur, c'est de l'engager du corps. Et j'ai pas eu l'impression que ça ressortait beaucoup. Et moi, j'ai l'impression que ça fait partie des choses qui sont efficaces, de pas être justement, de y aller pleinement, quoi. Donc, je veux bien que tu me répondes sur cette question, si tu veux.
Je comprends tout à fait que l'engagement complet et l'engagement de soi dans un travail qui a du sens, etc., ce soit une manière de se connecter avec ses valeurs profondes, et que quand on est connecté avec ses valeurs profondes, évidemment, il se passe quelque chose dans la cohérence de l'action, dans la capacité à toucher, à convaincre, et puis il y a une, enfin voilà, on pourrait en dire beaucoup sur l'humanité qui se produit et à ce moment-là encore plus qu'à d'autres moments. Mais vraiment, je pense qu'il y a des leçons à tirer de l'histoire du travail social. Vraiment, de ce qu'a été l'histoire du travail social et de l'explosion en vol des travailleurs sociaux sur ce type de posture professionnelle. Pourquoi Alors, c'est pas qu'une question individuelle, une fois de plus. Ça a été aussi que les organisations n'ont pas su préserver les instances de recul, n'ont pas su préserver les temps de réflexivité, n'ont pas su alimenter le travail collectif. Si vos institutions, aux uns aux autres, vos organisations, vos associations préservent ces espaces, alors oui, il peut y avoir ces formes d'engagement parce qu'on peut en revenir, on peut élaborer. Les psychologues travaillent là-dessus depuis très longtemps puisque eux s'engagent d'une manière qui va bien au-delà du cérébral, hein, dans la relation à l'autre, etc. Mais avec toujours des instances de recul, de supervision, de partage, etc. Ce qui s'est passé dans le travail social, c'est que dès que les moyens ont baissé, ces moments-là ont disparu, ont été évacués en disant « vous avez des files actives à gérer, vous devez gérer ces projets-là, il faut aller vite, etc. » Et ça, plus l'engagement personnel complet, ça fait que le jour où le travail perd son sens, il reste rien. Et c'est un vrai danger. Et moi, je ne crois pas, tout comme je ne crois pas, et quand je travaillais dans les supermarchés, que j'ai été délégué syndical, je ne voulais pas qu'on dise aux caissières « vous devez être souriante, vous devez être aimable, vous devez être ». Non, je voulais qu'on dise « vous devez faire ». Vous ne devez pas être, parce que dans ce travail-là, on ne peut pas s'engager, parce que le jour où ça commence à coincer, qu'est-ce qu'on met en cause? Des compétences, des ou soi. Enfin, et là, je pense qu'il y a un vrai danger, et plus les métiers vont vers la relation humaine, plus ce danger-là existe, de trop s'en remettre à son individualité, à savoir, à être psychologue, comme quand j'entends être empathique. Ça veut tout et rien dire, et ça voudrait dire quoi, que quelqu'un qui échoue face à un groupe, c'est parce qu'il n'est pas empathique, mais enfin, vous voyez ce que tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que il y a deux choses là-dedans. Il y a faire attention, mais en même temps, dans toutes les organisations, même si ça contrevient à la logique gestionnaire, préserver des moments, des instances de recul, de réflexivité qui soient collectives. Si ça c'est présent, si ça c'est préservé, etc., à ce moment-là, ça permet de s'engager, et chaque fois qu'il y en a, ça permet de s'engager un tout petit peu plus. Et je pense que les moments comme aujourd'hui permettent d'aller plus loin, et c'est parce qu'on est là ensemble aujourd'hui que chacun peut imaginer y aller à fond. C'est parce qu'il y a ce collectif-là qui permet de la réflexivité, mais si un jour ça disparaît, ou si pour quelqu'un ça a disparu quelque part, et que collectivement on a dit il faut être à plein dans son travail, mais pour cette personne-là, cette supervision, ce recul a disparu, voilà, ça peut avoir des contre-effets. Alors s'il faut aller là, il faut que collectivement, il y ait une organisation qui veille que partout, les directeurs de structure et d'assaut garantissent ce temps-là. Et ça, c'est le jour où il faut le faire, c'est moins facile.
Merci Nicolas.
En fait, j'ai l'impression que depuis ce matin, on s'interroge sur quel est notre rôle et notre responsabilité en tant qu'accompagnateur au changement. Et du coup, je voudrais illustrer avec quelque chose qui est en fait... Moi, je viens de la vallée de la Drôme, donc, qui s'appelle aussi la Bio-Vallée. Et pour dire que c'est une vallée qui se met en mouvement sur plein d'aspects. Et si c'est possible, c'est pas seulement parce qu'il y a des gentilles associations qui accompagnent les gens au changement, mais c'est parce qu'il y a un projet de territoire et où il y a eu des millions d'euros. Et du coup, les collectivités, les entreprises, les associations, tout le monde s'est mis en marche, en mouvement, ensemble. Et du coup, d'injecter une logique de projet territorial et des pépettes, et ben ça aide aussi. Et que du coup, bon, aujourd'hui, on n'a plus les pépettes, donc il y a des choses qui continuent. Mais c'est vrai que ça a permis quand même de tenir, de faire bloc. Et du coup, il y a un écosystème favorable à l'expérimentation, au changement, etc. Donc voilà, du coup, c'est pour mettre un peu moins la responsabilité sur chacun de nous, mais aussi voilà, sur des logiques plus collectives. Ce qui
a passé autant de conclusions de cette table est-elle ronde ?
On n'y revient pas. Parce que j'ai beaucoup aimé cette intervention, parce que moi, j'ai été travailleur social pendant 20 ans. Et j'ai fait l'éducation à l'environnement, je ne l'ai pas fait pour les enfants au départ, je travaille avec des enfants handicapés mentaux. Je ne l'ai pas fait pour eux, je l'ai fait pour moi au départ. Parce qu'on était tellement malmenés, parce qu'on était tellement seuls, je vais être court. Mais parce qu'à un moment donné, je me suis dit, on disait, on fait du jardin avec les enfants, on fait de la nature, etc. Et moi, je me disais, mais non, et les citoyens vont être où ces gamins-là? Parce que moi aussi, je me sentais pris dans cette question où on ne me considérait plus en tant qu'un citoyen qui avait son mot à dire sur ce qui se passait en lui. Pour lui et pour les autres qui avaient autour. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, mais je ne suis pas très clair là-dedans, excusez-moi. Mais on me disait, moi je me dis toujours, je ne travaille pas dans une ruche, parce que dans une ruche, c'est la nécessité qui fait la loi. Et la nécessité, si on était dans une ruche, il n'y aurait plus de handicapés. On aurait tout viré, parce qu'à un moment donné, voilà. Et nous, on est des humains, et ce qui nous fait fort, c'est le langage. Et qu'à un moment donné, ce n'est pas la même chose de dire éduquer à la nature et éduquer à la EEDD. C'est-à-dire, il y a l'éducation environnement et au développement durable, c'est-à-dire on met un citoyen au milieu, mais on ne le met pas comme ça, ça prend du temps, ça demande de prendre en compte la pédagogie de projet, même avec des gamins, parce que moi je bosse avec des gamins, c'est handicap lourd à très lourd. Vous voyez, le mec qui a inventé ce mot, c'est... Enfin, voilà, fallait s'accrocher déjà. Voilà, mais n'empêche qu'on bosse avec ça. Voilà. Et nous, on nous a dépossé... Enfin, moi, dans mon métier, j'étais dépossé de ça, je dis, je me casse. Et puis je me dis, je ne vais pas laisser les gamins, donc du coup, je suis tombé par hasard sur un CPIE, je ne savais pas que ça existait. Et depuis, bah, je suis tombé dedans comme une Obélix. Mais donc ça me touche beaucoup ce que vous avez dit.
Merci. Karine.
Alors moi, dans mon métier d'ethnologue, j'ai eu à cœur toujours de rendre un peu visible des choses visibles. J'ai eu la possibilité assez longtemps de travailler en Inde sur la place des femmes dans l'agriculture. J'en ai dit deux mots tout à l'heure. Et la manière dont les femmes géraient les semences, la biodiversité et la spécificité aussi des stratégies des femmes pour maintenir un équilibre au niveau dans les campagnes et au niveau des cultures vivrières. Donc il y a des points de bascule qui sont liés vraiment à des approches genre et à des rapports hommes-femmes. Donc je sais que c'est... Bon, en France, on parle pas de ça. C'est pas évident dans des arènes comme ça d'aborder ces questions de genre. Mais moi, comme j'ai un certain bagage là-dessus au niveau international, je prends quand même le risque de le faire. Sur des questions, je me suis retrouvée en 2009 suite à Copenhague, une grande conférence à Paris avec un retour table ronde sur conférence sur le changement climatique, 200-300 personnes dans la salle, une table ronde où il n'y avait pas de femmes, et puis 2-3 heures de discussion et pas une seule femme qui a pris la parole dans toute la soirée. Et je me suis vraiment questionnée en me disant mais c'est peut-être pas qu'à l'étranger qu'il y a des problématiques de genre et qu'il y a peut-être des entrées qui étaient à l'époque et qui sont peut-être moins aujourd'hui mais très techniques et qu'on cherchait des solutions techniques, et que du coup, ça a évincé, je pense, toute une part de la population, notamment les femmes. Et donc, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a moins de femmes que d'hommes qui prennent l'avion. Enfin, c'est pas pour être dans des histoires de culpabilité, mais c'est pour comprendre qu'il y a des choses de genre, des rapports de genre qui traversent notre société, qui sont pas visibles aujourd'hui. Les grandes entreprises sont essentiellement dirigées par des hommes. Et que c'est des choses dont on parle très peu en France, dont on parle beaucoup plus dans les milieux anglo-saxons. Moi, j'ai beaucoup évolué aussi. Et voilà, je pense que c'est juste un point de vigilance à avoir dans tout le travail qu'on fait. Il y a toujours voilà, le pouvoir d'achat des hommes ou des femmes, c'est pas les mêmes, les cycles de vie. Il y a cette notion-là. Alors, je suis ravie de voir que dans les arènes comme aujourd'hui, la prise de parole est très partagée. Voire,
les femmes sont plus nombreuses.
Oui, ouais. Et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup sur le terrain. Par contre, quand on monte dans les arènes de décision politique, là, on a beaucoup moins de femmes.
Tout à fait.
Voilà, donc je pense que c'est juste un point de vigilance à avoir sur le travail qu'on fait au niveau à la fois des comportements, des prises de décision, du pouvoir, soit le pouvoir économique ou le pouvoir politique. Merci.
Il nous reste 5 minutes, donc voilà, vous pouvez tous les 4 prendre un temps d'une minute voilà, pour nous dire ce que vous gardez là, de ce temps d'échange, de discussion. Vas-y, Solange.
Je vais juste rajouter un petit point par rapport au fait nager de la natation contre-courant. Et cela dit, ça rebondit sur ce qu'a dit Karine. Oui, il y a des rapports de genre. J'ajouterais qu'il y a aussi des rapports sociaux dans nos sociétés, dont on parle peu, y compris en matière d'environnement. Et pourquoi ça? Parce que je pense qu'on n'aborde pas non plus les différents groupes sociaux de la même manière, et qu'il y a quelque chose qui se joue dans ces questions d'environnement, qui est le rapport au collectif. Hein. C'est bien effectivement, d'une certaine manière, sortir de l'idéologie « moi je maintenant » à « nous plus tard ». Alors effectivement, il y a du « moi je maintenant » qui est déterminé, construit, on va dire, par la publicité, par le capitalisme, etc. Il y a aussi du « moi je » qui est subi par le désinvestissement du collectif auprès d'un certain nombre de populations. Et ça, on voit dans les enquêtes, il y a une partie de la population, en gros 25%, qui est réfractaire à l'environnement. Alors, pour des questions idéologiques, de positionnement politique, oui, en partie, mais aussi parce que l'environnement, ça veut dire faire quelque chose pour un tout qui me dépasse. Et quand on a l'impression d'être abandonné, de toujours donner plus qu'on ne reçoit, et bien c'est compliqué. Donc voilà, juste rappeler qu'il y a un certain nombre de populations qu'il faut aborder peut-être moins par la logique de l'intérêt individuel, aux intérêts à aller faire ça, parce que non, mais par du don contre don. Et quelques expériences dans des quartiers ont montré que quand vous arrivez en disant bah, « tenez, on va faire quelque chose pour vous », après c'est plus facile de demander aux gens voilà, de faire quelque chose pour le collectif. Donc ayez, voilà, c'était juste un petit point de complément pour dire que bah, le rapport au collectif, c'est vraiment un déterminant du succès de nos actions, et que parfois il est entre guillemets construit et choisi et assumé, et des fois il est subi. Et voilà, c'est aussi à contre-courant parce qu'il y a de plus en plus de populations qu'on laisse sur les côtés. Et ça, c'est problématique pour nous parce que ça empêche leur engagement dans quelque chose de plus vaste qui est donc la défense de l'environnement, de la planète, etc. Voilà, mais on va y arriver.
Ça va ?
Oui, c'est bon.
Okay.
Je ne vais pas me permettre de conclure rien du
tout. Non, qu'est-ce que tu gardes là ?
Voilà, juste. Non, moi je voulais juste dire que ces journées, enfin je pense qu'il faut continuer à en faire, plus petites, plus grandes, j'en sais rien, partout dans les territoires, mais en tout cas, c'est toujours. Ça fait toujours sens d'entendre des prises de parole et on a réussi un peu le pari d'avoir des gens différents dans cette salle, et c'est ça qui est chouette aussi.
Et qu'est-ce que tu gardes bien ? On n'est pas sur le temps de conclusion du coup de la journée,
je
précise bien, vraiment sur ce temps de discussion, voilà, là, qu'est-ce qui fait sens pour toi ?
Eh ben, ce qui fait sens pour moi, c'est que des prises de parole variées et qui permettent de faire avancer les réflexions. Tout à l'heure, tu disais, Frédéric, tiens, quand on rentre dans une discussion, si c'est une vraie discussion, on est prêt à changer d'avis. Et voilà, en tout cas, je crois qu'il y a de ça, et continuons à échanger là-dessus. Merci à chacun depuis ce matin.
Oui, ça va être un mélange de plaisir et de frustration. D'abord, effectivement, le plaisir d'avoir des découvertes et des personnes et des propos. Et puis, la grande envie de lire plus, d'échanger plus, d'apprendre plus, de ne pas être limité comme on peut se sentir... limité par une absence de culture sur plein de choses. Donc je crois que c'est cet équilibre. Je me retrouve en position d'apprenant, hein, c'est-à-dire celle dont on parle beaucoup en général de l'autre côté du manche. Et je m'aperçois effectivement du mélange à la fois d'éléments à apprendre et de la façon de le transmettre. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut se sentir très en sécurité pour oser intervenir, pour formuler ses limites. Et ça, je trouve qu'on est resté justement dans un moment où on apprenait des choses sans avoir trop peur de dire qu'on était ignorant. Et ça, c'est bien.
Que gardes-tu de cette discussion sur l'éthique de l'accompagnement du changement ? Ce qui te semble marquant, en 30 secondes.
Ce qui me semble marquant, enfin moi ce que j'en retiens et ce avec quoi je repars, c'est, mais ça fait un moment, l'envie, le souhait toujours que l'action s'articule à la recherche pour construire des projets si possible durables, si possible financés sur suffisamment d'années, si possible financés malgré l'incertitude parfois de certains protocoles parce que c'est toujours une aventure la recherche-action, mais de tout ce que j'ai entendu, il y a eu quand même plein de fois où ça donne envie aux uns et aux autres de dire mais la prochaine fois on le fait ensemble quoi. Mais c'est pas si facile parce que nous chercheurs on est submergés, on n'a pas le temps, on a trop de choses. Donc là comme ailleurs, je pense qu'il faut inventer ces tiers-lieux qui vont nous permettre de travailler ensemble où on mutualise des moyens parce que personne ici n'a besoin d'un chercheur à plein temps. Donc on mutualise et puis on essaye de construire des lieux vraiment qui nous... Alors ça peut être ici, ça peut être ailleurs, mais des lieux qui nous accueillent, qui nous permettent, nous, chercheurs, de nous débarrasser de l'académie, parce que qu'est-ce qu'elle pèse lourd et qu'est-ce qu'elle nous empêche d'agir, voire parfois de penser, et qui, pour les acteurs de terrain, permet aussi de se décaler un petit peu du quotidien, de l'urgence, des dossiers à traiter, etc. Et ça, je pense que structurellement, tant que ces lieux-là ne sont pas pensés, posés, soutenus, ça va être difficile de croiser l'action et la recherche et on risque de reprendre régulièrement rendez-vous en se disant « mince, qu'est-ce que ça aurait été bien si nos théories restaient pas abstraites et qu'est-ce que ça aurait été bien si vos travaux et si les projets des acteurs avaient permis et avaient été l'occasion de capitaliser des connaissances ». Donc il y a cette première chose-là qui, à mon avis, là, très... nécessiterait que véritablement on élabore des propositions en disant à quoi ça pourrait ressembler, ça pourrait être financé comment, par qui, pourquoi, etc. Parce que sinon je pense que ça va toujours être on sollicite tel ou tel chercheur pendant les quelques heures qu'il a consacrées au projet avant de replonger dans ses tâches administratives ou pédagogiques. Et puis l'autre chose, c'est la question de l'égalité qui me paraît centrale à plein de titres parce que Il ne faudrait pas que la transition énergétique, écologique, sociétale et tout ce qu'on veut devienne en fait le prétexte au conflit intergroupe. Et c'est ce qui risque de se passer si les démarches de sensibilisation continuent à ne porter que sur une part de la population qui, plus ça va, plus va se reconnaître dans ces démarches-là, et une autre part qui, par le fonctionnement de la catégorisation sociale, va dire ben, plus les autres le font, plus nous, c'est pas notre monde. Et ça, c'est un vrai risque. Et ce risque-là, il vient de tensions sociales déjà existantes, de délaissement et de recul des services publics dans des quartiers, mais aussi par la conception de certaines actions où quand on dit à des personnes qui sont plongées dans l'immédiat de par leur situation, écoutez, faites un peu des efforts parce que ça portera ses fruits dans une dizaine d'années, on leur parle un langage qui est l'inverse de ce qu'est leur vie quotidienne, quoi. Et ça, quand de notre point de vue, on arrive sur des terrains, on regarde ce qui se fait, parfois, c'est le risque de penser à partir de soi plutôt qu'essayer de penser à partir de l'autre ou de se décaler suffisamment pour se dire ben, mon réflexe de communication, de relation, etc. est peut-être l'inverse de ce que l'autre est prêt à entendre, et que c'est peut-être pour ça que certains ne sont jamais là. Parce que la manière de construire une salle en disant « mais tout le monde va parler ben, », il y a des gens que... Quand on leur laisse penser qu'il va falloir qu'ils parlent, ben c'est pas juste qu'ils parlent pas et qu'ils se pensent dans un coin, c'est qu'ils s'en vont. Donc que parfois, oui, les systèmes très classiques et très descendants, ben il y a des publics que ça va rassurer, et puis on va transiter doucement. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'au-delà du changement, il y a la question de la transition, prendre les gens là où ils sont, et puis avec eux, aller quelque part et se décaler chacun. Et je pense que c'est ça qui va pouvoir permettre d'éviter les effets inégalitaires qui vont avoir là, pour le coup, des conséquences très, très dommageables.
Merci à tous pour cette participation à ce temps de discussion. Selon vous, c'est bon.
Moi, je voulais merci pour l'invitation. Voilà. Alors, c'est juste un tout petit truc.
On va conclure, là, oui.
Ouais. C'est de la conclue, mais c'est vraiment minimal. Hein.
Alors, minimal, c'est pour moi, c'est 20 secondes.
Et ben, donc ça, c'est peut-être la seule chose que je vais dire en mon nom propre. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours très agréable de croiser les gens du terrain. Ça redonne du sens aussi, parfois, ce qu'on fait, parce qu'on est parfois impulsé entre Kafka et Ulu dans nos organisations parapubliques. Et donc, de vous côtoyer cette journée fait que je suis reboostée à bloc, malgré mes petits virus, en cette fin de journée. Donc, merci beaucoup à vous. Voilà.
Merci.